Et vous l'avez entendu sur France Inter, il est 19h. Sébastien Paour, bonsoir.
Bonsoir à tous. Les murs ont des oreilles à Bruxelles. La capitale européenne grouille d'espions, agents chinois et russes notamment. Les diplomates sont prévenus et pas franchement surpris, vous verrez. L'école de demain, version Jean-Michel Blanquer, obligatoire des 13 ans, des 3 ans et mieux évaluée. Les députés débattent du projet de loi pour une école de la confiance. Au sommaire également ce soir, 1 million d'euros et un convoyeur de fonds qui disparaissent à Aubervilliers. Les soucis d'argent du Rassemblement national, les mêmes qu'à la France insoumise, dit Marine Le Pen, on vérifiera. Les 40 ans de la révolution dans l'indifférence en Iran, nos envoyés spéciaux sont à Téhéran. Alexis Peintureau en or, en combiné en Suède, premier titre mondial du skieur français. Et au téléphone sonne, Fabienne.
Eh bien, à la suite de cette fameuse ligue du LOL, on va essayer d'interroger les ressorts de ce qu'on appelle désormais la masculinité toxique. L'idée de dominer, de contrôler en brandissant après coup l'excuse de la jeunesse. On interrogera ce mythe de la virilité. Au fond, ça sort d'où cette idée de dépossession? Assaisonnée de bêtises aussi quand même. On en parle au 01 45 24 7000.
France Inter. L'information ferait sourire Hubert Bonisseur de la Batte s'il s'agissait d'un épisode d'OSS 117, l'agent secret campé au cinéma par Jean Dujardin, mais c'est bien la réalité d'après le très sérieux service européen d'action extérieure. Bruxelles est un véritable nid d'espions. Il serait notamment 250 agents chinois, 200 russes dans la capitale belge qui abrite les sièges de l'Union européenne et de l'OTAN. Les diplomates qui doivent éviter certains bars et restaurants Johanna Hochstein ne sont pas franchement étonnés.
Nous sommes ici au cœur du quartier européen. Les fonctionnaires en costume cravate, pour la plupart, sortent pour déjeuner. Des diplomates qui seraient donc espionnés par des agents chinois et russes. Une surprise pour les principaux intéressés ?
Non, non. Parce qu'ils ont intérêt pour l'Europe, pour les choses économiques.
Je pense que l'Europe est un centre de pouvoir que les gens n'en ont pas conscience.
Les services de sécurité auraient même demandé à leurs employés d'éviter un restaurant du quartier spécialisé dans les grillades et certains cafés, des précautions que prennent déjà ces fonctionnaires roumaines.
Qu'il y a des espions russes, je m'attendais.
Dans les cafés, peut-être même ici.
On ne reste pas dans le café, on va se promener dans le parc.
Les administrations des différentes institutions donnent en fait, depuis des années, toute une série de directives à leurs fonctionnaires.
Faire attention quand on est dans notre vie privée, de ne pas parler de boulot.
Il y a quelques-uns qui sont pas sur les social media comme WhatsApp, Instagram et puis des choses comme ça. Moi, je n'ai jamais joint le Facebook, par exemple.
Des Chinois et des Russes, mais pas que. Les espions américains seraient aussi très actifs ici. Bruxelles est d'ailleurs la seule ville au monde où les 17 agences de la communauté du renseignement américain sont représentées. À Bruxelles, Johanna Hochstein, France Inter.
Et d'après les services de sécurité européens, les agents marocains seraient aussi très actifs à Bruxelles.
Il ne s'appelle pas projet de loi Blanquer.
Non, le texte examiné à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée a été baptisé projet de loi pour une école de la confiance. Et sa mesure phare, c'est l'instruction obligatoire à partir de 3 ans au lieu de 6 aujourd'hui, qui concerne 26 000 enfants essentiellement outre-mer. On y trouve aussi notamment une nouvelle instance pour évaluer l'école et une plus grande place à l'expérimentation. Les débats ont débuté cet après-midi. Bonsoir Sonia Princey.
Bonsoir.
Quels sont les aspects du projet qui divise le plus les députés ?
Oh, il y en a beaucoup parce que le projet de loi comprend 25 articles sur des sujets très disparates. Parmi les plus contestés, par exemple, l'évaluation. Tous les établissements seront évalués par une instance nationale. Le ministre Jean-Michel Blanquer a tenu à rassurer ceux qui craignent une mise en concurrence.
Nous devons forger une nouvelle vision de l'évaluation, totalement dédramatisée. L'évaluation n'est pas punitive. C'est vrai pour un élève, c'est vrai pour les institutions. Elle est tout au contraire un levier de réussite. Trop souvent, nous nous accommodons de difficultés qui correspondent à des territoires en particulier et qui sont là comme fixés au sol. L'évaluation, d'une certaine façon, c'est la lutte contre la fatalité.
Autre question sensible, des étudiants à partir de la deuxième année de licence et qui se destinent au métier de professeur pourront progressivement, pendant 3 ans, assurer des missions dans les classes, aide aux devoirs au départ, puis enseignement dans les disciplines où l'on manque de professeurs, ce qui a fait bondir Alexis Corbière, député La France Insoumise.
Vous ubérisez le métier d'enseignant. Vous pensez sincèrement que vous allez rétablir la confiance ? Oui, vous précarisez le métier d'enseignant, car nous avons bien compris, nous sommes ouverts à ce que des étudiants aient un établissement scolaire. On ne vous a pas attendu, d'ailleurs, c'est bien curieux, qu'ils puissent aider. Mais on a bien compris que face à l'absence de moyens, vous allez généraliser cela et mettre en situation d'enseignement des gens moins formés, évidemment, et bien entendu moins rémunérés.
Les discours ont beaucoup repris le mot « confiance ». C'est plutôt la défiance des enseignants que vous suscitez, ont ironisé des élus, pas du tout convaincus par la formule du ministre.
Sonia Princey pour cette future école de la confiance. Et lui, justement, pouvait-on lui faire confiance à ce convoyeur de fonds disparu ce matin à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis ou bien est-il victime de malfaiteurs? Le mystère est entier encore ce soir. Bonsoir Emmanuel Leclerc.
Bonsoir.
Le convoyeur a disparu. On a retrouvé son fourgon blindé, mais les sacs de billets n'y sont plus.
Oui, le fourgon a été retrouvé à 500 mètres à peine de la banque Western Union où deux convoyeurs avaient démarré leur tournée quelques minutes plus tôt ce matin à 6h. Mais quand ils ressortent de l'agence, leur collègue a disparu donc avec ce fourgon et une partie de l'argent de la tournée, autour d'1 million d'euros. On ne sait pas encore précisément. Le fourgon de la Loomis, lui, est vide quand les premiers enquêteurs arrivent sur place, effectivement. On ne sait pas si le convoyeur suspecté d'avoir braqué lui-même sa compagnie a reçu l'aide de complices pour décharger une soixantaine de sacs au total. L'enquête devrait dire quel type de véhicule il a utilisé pour s'enfuir. En tout cas, ce soir, l'homme âgé de 28 ans est toujours porté disparu. La première hypothèse, c'est qu'il a agi comme bien d'autres avant lui. L'appât du gain comme Tony Musulin en 2009 qui s'était rendu après 10 jours de cavale, mais il a toujours manqué une partie du butin, 2,5 millions d'euros tout de même. La deuxième hypothèse, c'est que le convoyeur n'a pas vraiment eu le choix, sa famille ayant pu être menacée par exemple.
Tony Musulin qui a été condamné et qui a purgé sa peine. Merci Emmanuel Leclerc. Il choisissait ses victimes aux heures de pointe, quand le métro est blindé, bondé, et il se collait à elles, ses victimes, pour les toucher, et même plus. Un récidiviste est jugé en correctionnel à Paris pour des agressions sexuelles sur mineurs. C'est une adolescente de 14 ans qu'il avait suivie et dénoncée, qui a notamment permis son arrestation. Des inscriptions antisémites découvertes ce week-end à plusieurs endroits de Paris, des croix gammées sur le portrait de Simone Veil, à la mairie du 13e arrondissement, des tags aussi sur une porte de garage du 1er, et le mot « Juden » en lettres jaunes sur la vitrine d'un restaurant Bagelstein de l'île de la Cité, découvert quelques heures avant la manifestation des Gilets jaunes. C'est la deuxième fois en quelques jours que l'enseigne est visée et une première en 9 ans d'existence pour le cofondateur du restaurant, Thierry Veil, joint par Laurélie Carive.
C'est la deuxième fois cette semaine que ça arrive, puisqu'il y avait déjà eu une boutique qui avait été touchée dans la nuit de mardi et mercredi, toujours à Paris. C'était inscrit au marqueur sur la façade « La pourriture juive se répand ». On est horrifié par cette vague qui monte sourde. On n'est pas un parti politique, on prend pas position dans quoi que ce soit. On fait des bagels et puis on se fait taguer avec des propos antisémites. Pourquoi cette semaine, je ne sais pas, mais ça nous était pas arrivé avant. Il y a quand même un climat de tension en France depuis quelques semaines. Je vais pas dire 13 semaines parce que ce serait trop facile. Malheureusement, la communauté juive, c'est le canari dans la mine de charbon. C'est souvent ces premières minorités auxquelles on s'en prend quand il y a des positions radicales et quand il y a des tensions. Donc il est fondamental que la justice soit interpellée parce que la bêtise humaine doit à un moment donné, doit rendre des comptes.
Une plainte sera déposée demain. Le parquet de Paris a d'ores et déjà lui ouvert une enquête pour dégradation volontaire aggravée et provocation à la haine raciale. Et puis on apprend ce soir que 2 arbres plantés en hommage à Ilan Halimi, tué en 2006, ont été coupés à Sainte-Geneviève-des-Bois. Eux s'étaient regroupés depuis près de 10 ans dans un groupe baptisé la Ligue du LOL et ils harcelaient d'autres journalistes ou blogueurs sur les réseaux sociaux. 3 journalistes de Libération et des Inrocks sont mis à pied à titre conservatoire. SOS Racisme demande l'ouverture d'une enquête préliminaire. Ce soir, le directeur adjoint de la rédaction de Libé, Christophe Israël, sera demain matin chez Sonia De Villers à 9h40 sur Inter. Et vous y revenez, vous, au téléphone sonne à 19h20, Fabienne.
Absolument, 01 45 24 7000. Les partis politiques ont-ils des problèmes de trésorerie?
Marine Le Pen a admis ce matin sur Inter que son mouvement avait du mal à trouver de l'argent, à obtenir des crédits. Et la patronne du Rassemblement National assurait qu'ils n'étaient pas les seuls dans cette situation, que la France insoumise était aussi concernée. Bonsoir Élodie Forêt.
Bonsoir.
Est-ce que c'est vrai?
Oui, c'est vrai, malgré des demandes de prêts lancées dès juillet dernier pour obtenir le financement de sa campagne européenne, la France insoumise n'a toujours pas de réponse ferme. Début décembre, la coordinatrice de l'équipe de suivi des questions financières expliquait qu'il faudrait peut-être faire sans, mais aujourd'hui davantage d'optimisme dans les rangs. Les négociations, nous dit-on, sont en cours avec le crédit coopératif et plutôt en bonne voie selon la trésorière. En cas d'échec, le parti pourrait avoir recours à l'emprunt populaire, la plateforme plateforme numérique est déjà prête.
Un médiateur a été créé pour aider les formations politiques. Que fait-il ?
Jean-Raphaël Alventosa, nommé le 4 août par décret, est censé rencontrer à la fois les partis et les banques pour faciliter le dialogue. Mais plusieurs formations politiques, le RN notamment, doutent de son efficacité. Et les partis en difficulté se débrouillent finalement sans lui, à l'image de la France Insoumise ou de Nicolas Dupont-Aignan. Selon le président de Debout la France, le médiateur se saisit des dossiers tard après le refus de 3 banques. Lui en est à 2, dont l'un motivé par son alliance avec le Rassemblement National lors de l'entre-deux tours de l'élection présidentielle. Le médiateur, lui, se défend. Il y a encore de la marge, assure-t-il, afin que tous les partis puissent obtenir des prêts pour les européennes. Il rendra un diagnostic après l'élection.
Élodie Forêt pour ses précisions. Merci. Marine Le Pen dépose par ailleurs plainte pour menace de mort. Un tag RN, une balle dans la tête, a été inscrit sur la façade de la salle polyvalente de la Manche où elle tenait meeting samedi. Les derniers chiffres du gouvernement sur les conséquences économiques du mouvement des Gilets jaunes. Près de 70 000 salariés au chômage partiel dans près de 4 900 entreprises, surtout des PME, pour une facture de près de 40 millions d'euros. Commerçants et artisans concernés seront reçus jeudi à Bercy. Le suspect de l'incendie d'une voiture de Sentinelle samedi à la Tour Eiffel à Paris sera présenté à un juge demain en vue de sa mise en examen. Une petite accélération de la croissance au premier trimestre d'après les estimations de la Banque de France qui table sur 0,4%, notamment grâce aux mesures de soutien au pouvoir d'achat du gouvernement pour répondre justement aux gilets jaunes. Elles protestent contre ce qu'elles appellent l'ubérisation du permis de conduire. Les auto-écoles organisaient des opérations escargot dans plusieurs villes de France, Paris, Bordeaux, Marseille, Bastia ou encore Nice. Les écoles de conduite se disent menacées par le rapport de la députée En Marche du Gard, Françoise Dumas, remis vendredi à Édouard Philippe, et qui pourrait favoriser les plateformes en ligne. Bruno Massé est moniteur de conduite à Paris, membre du CNPA Éducation Routière, l'un des syndicats du secteur. Il est ici au micro de Béatrice Duguay.
Aujourd'hui, on nous dit que nos permis de conduire sont beaucoup trop chers. Ils sont estimés à 1800 euros en moyenne. Et nous, nous avons réfléchi, nous avons la possibilité à le rendre gratuit. Par contre, on a besoin des pouvoirs publics, tout simplement parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on a des heures de conduite minimum obligatoire. Par contre, il n'y a pas d'heure théorique en salle obligatoire. Donc forcément, tout ce qui est conduite, c'est individuel, ça coûte cher. Par contre, tout ce qui est en salle, c'est collectif. Et là, justement, ça permettrait de réduire le coût de manière assez conséquente. Alors nous, on l'estime à 300 euros, la diminution du coût, ce qui nous ramènerait un permis à 1500 euros. Sachant qu'il y a 1 million de permis passés en France, on arrive à 1,5 milliard annuels. Et c'est pile poil le montant des recettes des radars automatisés. Donc aujourd'hui, tout le monde s'interroge où va cet argent des radars automatisés. Ben, nous, on propose que cet argent soit routé vers le permis de conduire et ça le rend gratuit, tout simplement.
Un médecin de Dijon visé par une plainte pour refus de soins. 5 patients qui souffrent de la maladie de Lyme racontent le même accueil lorsqu'ils consultent cet infectiologue du CHU de la ville. Il leur dit qu'ils n'ont rien, excédant leur tête. Alors comment vit-on lorsqu'on est atteint de cette maladie infectieuse transmise par une piqûre de tique ? Vincent Hulin a rencontré une patiente à Poitiers.
Cette maladie de Lyme empoisonne la vie de Jocelyne, d'autant qu'elle a été détectée très tardivement.
On me dit, c'est un burn-out, donc la réponse, ce sont des anxiolytiques. Bon, déjà 4 ans perdus, et là nous sommes en 2009. Aujourd'hui, nous sommes en 2019. Et je n'ai pas perdu mon temps à attendre qu'une solution vienne à moi. J'ai traversé la France en long, en large, en travers. Je suis allée à Paris, j'ai consulté à Paris, j'ai cherché à voir le professeur Perron qui est à Garches. Mais là, je me suis fait refouler. On me dit, vous n'êtes pas parisienne, il est débordé.
Aujourd'hui, Jocelyne évoque un traitement qu'elle pourrait suivre en Allemagne.
Après moult démarches pour me renseigner, j'ai compris que l'Allemagne était une ouverture. Et c'est là où je trouve ça scandaleux, qu'il faille aller en Allemagne, qu'il faille l'énergie, l'argent pour se soigner. Et parce que seul là-bas, on traite avec une combinaison de 3 antibiotiques. Et il semblerait qu'il y ait des résultats.
Et Jocelyne avoue que c'est certes de l'argent, mais aussi beaucoup d'énergie. Et ça, elle en a de moins en moins. Poitiers, Vincent Hulin, France Bleu Poitou pour France Inter.
Décision le 8 avril au procès de l'abattoir d'Alès, procès lié aux images choc de l'association L214. C'était en 2015. Plus de 3 ans après, le tribunal de police était saisi pour 3 infractions, 3 dysfonctionnements et non pour une affaire de maltraitance animale. Le directeur de l'abattoir, Ludovic Labastrou, risque au maximum 3 amendes de 750 euros.
Le procès de la maltraitance à l'abattoir d'Alès n'a pas eu lieu puisque la majorité des faits pointés du doigt par L214 ont été évacués, non pas volontairement, indique le procureur, mais parce que c'est le droit. Parce qu'on n'a pas de garantie sur la sincérité des images produites, l'insuffisance de la preuve, une vidéo qu'on n'a pas pu dater précisément, techniquement, ou absoudre d'un éventuel montage menant à la manipulation des esprits. Sur le banc des parties civiles, Claire Starozinski de l'Alliance Anti-Corrida.
C'est une véritable honte quand on entend que, par exemple, un cheval, on lui a administré plusieurs coups de poing sur la tête, quand on voit que des actes de cruauté vont uniquement être poursuivis à hauteur de 3 fois 750 euros. Je me demande vraiment ce qui se passe pour qu'on ferme à ce point les yeux dans ce qui est fait dans les abattoirs.
Des parties civiles pour 3 infractions mineures qui réclament tout de même au total près de 13 000 euros d'amende et autant de frais de procédure. De quoi faire bondir Isabelle Mimran, l'avocate du directeur de l'abattoir d'Alès, qui a plaidé la relaxe pour les 3 seules infractions relevées, contrairement au ministère public, estimant qu'elles n'étaient pas constituées.
Et l'avocate de L214 a décidé de porter plainte contre l'État pour ce qu'elle qualifie de dysfonctionnement de la justice. Et puis je vous parlais à l'instant de cet agresseur sexuel du métro parisien. Il vient d'être condamné à 1 an de prison ferme. L'homme de 40 ans avait agressé sexuellement une femme et 3 adolescentes de 12 à 14 ans.
Sébastien, il est 19h15. L'Iran a 40 ans et toujours 2 ennemis principaux.
Les États-Unis et Israël, largement montrés du doigt dans les discours officiels à l'occasion du 40e anniversaire de la révolution islamique. Téhéran était pas aux couleurs nationales, vert, blanc et rouge, et la place de la liberté battue par la pluie pour écouter le guide Ali Khamenei. Reportage sur place de Franck Madvon et Gilles Gallinaro.
Tenue sobre pour les hommes, tchador pour les femmes, sous une pluie froide, les partisans de la République islamique affluent place Azadi.
Je suis venu ici car j'étais un enfant au moment de la révolution, et nous avons accompli tant de choses en 40 ans.
Les slogans visent Israël et les États-Unis. On montre du doigt les sanctions américaines.
Nous sommes ici pour protéger les valeurs de la révolution et pour prouver à l'Occident que quelle que soit la pression qu'ils exerceront sur l'Iran, nous défendrons la République islamique. Les difficultés économiques sont transitoires, elles n'entameront pas nos convictions.
L'Iran et le président Rouhani bombent le torse, mais la population est divisée. Beaucoup ne sont pas dans la rue aujourd'hui. Voici la réponse d'Aria, 29 ans, quand on lui demande si la révolution a échoué.
Short answer, yes.
En un mot, oui.
It failed.
Ça a échoué. Mais je ne demande pas une autre révolution. Je pense juste qu'il doit y avoir des réformes basiques.
Basic reforms, very basic.
Très basiques. Pour améliorer la situation.
Pour beaucoup d'Iraniens, en cette période de crise, l'anniversaire de la révolution est un non-événement. À Téhéran, Gilles Gallinaro, Franck Madvon, France Inter.
Et commentaire de la Maison Blanche ce soir, ces 40 ans de la révolution islamique sont 40 années d'échecs. On termine avec du ski et le premier titre français en combiné depuis 37 ans. Premier titre de champion du monde aussi pour Alexis Peintureau. Le skieur de Courchevel, vice-champion du monde de la spécialité, décroche enfin l'or. C'est à Areux, en Suède.
Ça fait longtemps qu'on parle du combiné. Pour moi, ça fait longtemps que j'y arrive pas. Et donc là, très heureux qu'enfin ça puisse payer, que j'arrive en plus de ça à aller chercher la plus belle des médailles. En ce moment, descendre, ça va un peu moins bien, mais par contre en slalom, ça va très bien. Et donc cette victoire aujourd'hui, je l'ai surtout construite par le slalom. C'est toujours un moment dans une carrière, un moment spécial, un moment, je dirais, d'accomplissement entre guillemets, parce que c'est un objectif. Pour moi, c'est un objectif, et maintenant, c'est celui-là, il est fait. Et alors après, maintenant, il me reste de belles épreuves. Il faudra que je récupère parce que je me suis quand même fait mal au genou sur cette descente et rien de trop grave. Ça m'a pas empêché de faire un bon slalom, mais j'ai une belle contusion osseuse au genou. Donc voilà, il faudra demain on fait un IRM quand même. Il devrait rien avoir de trop grave. Mais voilà, maintenant ça c'est au moins fait. Donc vaut mieux tard que jamais.
Bon, on espère qu'il sera remis pour le géant vendredi et le slalom dimanche. Alexis Peintureau ici au micro de Bruno Cuaz. Le dernier Français sacré en combiné, c'était l'actuel président de la Fédération Française de Ski, Michel Vion. Et c'était en 82 à Schladming, en Autriche.
Sébastien Paour pour le journal. Merci Sébastien. On se retrouve bien sûr demain.